Et bonjour à tous, rebonjour à ceux que j'ai déjà salués, mais je vous salue encore. Et je suis heureux ce matin encore de partager la parole de notre Dieu. Alors j'enlève mon masque parce que j'ai le droit ici. C'est le privilège du prédicateur, le privilège du président. Alors je veux bien qu'on mette le... Voilà, le début. Merci beaucoup. Voilà, oui, vraiment, je suis heureux ce matin de partager avec vous ce moment privilégié, parce qu'on a, le privilège en Église de partager la parole du Seigneur. Et je dis vraiment, c'est un privilège parce que, voilà, il nous a donné sa parole. Il ne nous a pas laissé sans rien, il est reparti, nous laissant son Saint-Esprit. Et par son Saint-Esprit, nous comprenons sa parole. La semaine dernière, je fais un petit résumé de ce que nous avions vu dimanche dernier. Et pour commencer ce résumé, je tenais à vous présenter mes excuses, parce qu'il paraît que lorsque j'ai présenté le livre, le chapitre dans lequel nous allions parler la semaine dernière, j'ai dit Ésaïe 4, c'est Ésaïe 54, voilà. Alors, il paraît que tout le monde a cherché 4 et puis n'a pas compris, n'a pas trouvé les paroles. Et c'était bien Ésaïe 54. Et dans notre passage d'Ésaïe 54, au milieu de toutes les promesses que Jésus, que le prophète parlant au nom de l'Éternel, donc que l'Éternel a faites à son peuple, au milieu de cette grande déclaration d'amour de l'Éternel à son peuple, il lui a été montré d'être prêt à accueillir d'autres que lui, ce peuple, de l'accueillir, d'accueillir en son sein. C'est pour ça qu'il s'est écrié de tendre les cordages de la tente, d'assurer les piquets et de peupler les villes devenues solitaires. Et il a dit aussi un petit peu plus loin, ses enfants seront enseignés par l'Éternel. Et ce que nous allons voir ce matin, c'est un enseignement donc de Jésus, déjà promesse tenue. Il tient ses promesses, il nous a envoyé son fils pour enseigner ses enfants. Alors je vais mettre le pupitre un tout petit peu plus haut parce que pour pouvoir suivre mes notes, j'ai besoin d'être... Est-ce que là, au niveau du micro, c'est bon pour vous ? Parfait. Bien, alors nous allons voir, là nous allons lire ce matin dans l'évangile de Luc. Et le passage que nous allons lire tout plus spécialement se trouve dans une partie où Jésus a pris une ferme décision, le chapitre juste avant, au chapitre à la fin du chapitre 9, il prend la ferme décision d'aller à Jérusalem. Il est en Galilée. Et il va à Jérusalem. Pour y trouver quoi à Jérusalem ? Nous le savons, nous connaissons l'histoire. Pour y trouver la condamnation, pour y trouver la mort, puis la résurrection. Mais cette décision, il la prend à un moment donné, en tous les cas, Luc nous le révèle comme cela, il la prend à un moment donné en disant « Je pars maintenant à Jérusalem. » C'est le moment. Il y va à pied, bien entendu. Et durant tout ce parcours pédestre, durant toute cette randonnée qui prend plusieurs journées, il décide d'enseigner plus spécialement ses disciples. Et donc durant tout ce parcours, on va avoir un enseignement spécifique des disciples. Et les disciples étaient nombreux, hein. Il y avait des hommes et des femmes qui le suivaient. Et puis il y aura aussi des enseignements plus spécifiques aux 12 qu'il a choisis tout spécialement et qui deviendront les apôtres. Et même dans ces 12, à un moment donné, il en choisit juste quelques-uns pour encore un enseignement encore plus spécifique. Enfin voilà, ce parcours-là jusqu'à Jérusalem est un parcours d'enseignement spécifiquement pour les disciples. Mais ce parcours se fait avec de plus en plus d'opposition. Et le passage que nous allons voir ce matin commence par une opposition. Je vais donc lire dans l'évangile de Luc, à partir du chapitre 10. Alors, si j'essaie de faire fonctionner, voilà. Ça, c'est ce que l'image que je vous ai montrée la semaine dernière. On en reparlera. Et ça, c'est l'enseignement. Alors, j'ai essayé de, comme il y a les enfants ce matin, j'ai mis des images. J'ai mis ça un petit peu cette semaine. J'ai profité de ce temps cette semaine pour rajouter des images. Et j'espère pouvoir réussir à coller et que ça soit intéressant aussi pour les enfants. Et je vais essayer de lier tout ça, et le texte, et les messages et les images. Luc 10, à partir du verset 25 jusqu'au verset 36. Un enseignant de la loi se leva et posa une question à Jésus pour lui tendre un piège. « Maître, lui dit-il, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Qu'est-il écrit dans la loi ? Comment la comprends-tu ? » Il lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton énergie et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu auras la vie. » Mais l'enseignant de la loi, voulant se donner raison, reprit, « Mais, oui, mais qui donc est mon prochain ?» En réponse, Jésus lui dit, « Il y avait un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho, quand il fut attaqué par des brigands. Ils lui arrachèrent ses vêtements, le rouèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Or, il se trouva qu'un prêtre descendait par le même chemin. Il vit le blessé et, s'en écartant, poursuivit sa route. De même aussi, un lévite il vit donc le blessé, s'en écartant et poursuivit sa route. Mais un Samaritain qui passait par là arriva près de cet homme. En le voyant, il fut pris de compassion. Il s'approcha de lui, soigna ses plaies avec de l'huile et du vin. Il les couvrit de pansements. Puis, le chargeant sur sa propre mule, il l'emmena dans une auberge où il le soigna de son mieux. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, les remit à l'aubergiste et lui dit « prends soin de cet homme, et tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rembourserai moi-même quand je repasserai. » Jésus ajouta « à ton avis, lequel des trois s'est montré le prochain de l'homme qui avait été victime des brigands ?» « C'est celui qui a eu compassion de lui, lui répondit l'enseignant de la loi. « Eh bien, va et agis de même, lui dit Jésus. » Nous avons donc ici, dans ce texte, un homme qui cherche à tendre un piège à Jésus, donc opposé à ce que Jésus est en train de faire en ce moment, opposé à son enseignement, opposé à... Peut-être a-t-il compris ou mal compris ce qui était Jésus, mais en tous les cas, de par sa fonction d'enseignant la loi, il veut se positionner avec une certaine fierté, nous voyons. Et il lui demande comment avoir la vie éternelle. Peut-être que quelque part aussi, il se posait la question. Est-ce que c'est pour lui tendre un piège en même temps que lui est perturbé ? Et connaissant parfaitement la loi, il donne la réponse. Jésus lui ouvre une possibilité de parler et de donner une réponse. Jésus n'est pas déstabilisé par toutes les oppositions qu'il aura il fait face. Aime Dieu et aime ton prochain, tu auras la vie. Et nous avons ici une manière de Jésus d'enseigner avec une image. Il raconte donc une histoire, puisque l'homme fier essaye de continuer à s'opposer et de piéger Jésus. Et dans cette histoire, nous avons là trois personnages qui vont avoir une attitude face à une victime, victime de brigands, victime qui est laissée pour mort. Dans ces trois personnages, il y en a deux qui ont un comportement similaire, le prêtre et le lévite. Tous deux vont passer par là, tous deux vont voir ce qui se passe, et tous deux vont partir, s'écartant même. Ils vont partir là où, pour continuer leur chemin, continuer leur route. Seul un homme va passer par là. Cet homme est un Samaritain. Et il va, lui, s'approcher pour voir, pour constater. Les deux autres ne s'approchent pas, donc ils ne peuvent pas constater. Et qu'est-ce qu'il leur prend ? Mais tout simplement parce qu'ils obéissent à une loi. Une loi qui dit de ne pas s'approcher de cadavres. Alors, ne s'approchant pas, ils ne peuvent pas voir que cet homme-là n'est pas mort. Ce n'est pas un cadavre, c'est un blessé. Mais ils choisissent de ne pas s'approcher. Seul le Samaritain s'approche. Les deux autres hommes font attention, ils obéissent à la loi. La loi leur a été prescrite et ils veulent rester purs, surtout dans leur fonction. Mais ils passent à côté de quelque chose de très important. Et le Samaritain, lui, ne passe pas à côté. Et le Samaritain, lui, pourtant, il a un titre qui lui colle à la peau. Il est ennemi des Juifs. Il est ennemi du peuple hébreu, pardon, excusez-moi. Il est le Samaritain. Le Samaritain, c'est l'ennemi, c'est l'étranger. Depuis de longues dates, c'est un ennemi. Mais lui, il s'approche et lui va prendre soin de cet homme. Alors, nous pourrions dire, voilà, ici nous avons le bon, la brute et le truand. Non, ce n'est pas ça. Il ne faut pas s'attendre à ça, puisque ces deux hommes, les deux autres, ont fait ce qu'ils pensaient bon. Mais il leur a manqué quelque chose. Alors bien sûr, on a le bon, ce qu'on appelle le bon samaritain, mais le bon samaritain, ce qu'il y a dans la culture, au fur et à mesure, on a appelé ça le bon samaritain, mais les textes ne disent pas qu'il est bon. Ils disent le samaritain. Il n'y a pas le bon samaritain, nous l'avons rajouté, mais il n'est pas dans le texte. Bref, nous avons donc trois hommes et une victime. Et non pas trois hommes, je vais faire encore une autre référence cinématographique, et un coup fin. Non, 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 non. Là, nous avons trois hommes et une victime. Ici, nous pouvons avoir, cette partie-là, un premier enseignement de Jésus. Et une première interpellation pour cet homme. Puisque cet homme est enseignant de la loi, il peut déjà se placer d'une manière où Jésus le place déjà dans une position. Peut-être est-il l'un de ses prêtres, peut-être est-il l'un de ses lévites. Mais en tous les cas, là, il interpelle son personnage. Et nous avons aussi dans ce texte un deuxième enseignement. C'est toute la richesse de la parole de Jésus. Un deuxième enseignement. Pourquoi ? Nous allons le voir immédiatement. Quel est ce deuxième enseignement ? Cela correspond à cette image. Qu'est-ce qui s'est passé après ? Donc l'homme s'est approché de Jésus. s'est approché de la victime, il a pris soin de lui, il lui a mis de l'huile et du vin sur les plaies, des pansements. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que vous sauriez répondre à ça? Il l'amène dans une auberge. Et qu'est-ce qu'il fait une fois amené dans l'auberge? Il le confie à qui? À l'aubergiste. Et en le confiant à l'aubergiste, il lui donne quoi? 2 pièces d'argent, ou 2 deniers. À l'époque, on appelait ça des deniers. 2 pièces d'argent. Cette représentation nous amène à des images toutes particulières. Nous pouvons ici y voir des images même prophétiques de ce que Jésus veut faire et de ce que Jésus a l'intention de faire. Ici, nous avons donc un premier message, un premier enseignement qui place l'homme d'une certaine manière et qui place la victime et le sauveur. Déjà, la réflexion se fait dans la tête de celui qui voulait lui tendre un piège. Cette réflexion va se poursuivre, mais va-t-il comprendre jusqu'au bout? On ne le sait pas. En tous les cas, nous avons ici une auberge, nous avons ici un aubergiste, nous avons ici 2 pièces d'argent et nous avons une dette payée d'avance. Et nous avons une promesse de retour. Quelle image prophétique nous annonce cette histoire? Frères et sœurs, l'auberge, moi je ne peux y voir que l'Église. L'aubergiste, je ne peux y voir que le Saint-Esprit. Et ces 2 pièces d'argent, que représentent-ils? En fait, les 2 pièces d'argent, nous pouvons y voir 2 choses que Jésus va laisser à l'Église tout spécialement, qui est sa parole et la prière. Pourquoi je parle de cela? Parce que un petit peu plus loin, puisque nous sommes dans un cycle d'enseignement de Jésus pour ses disciples, juste après, dans tous les cas l'évangile de Luc nous le présente ainsi, juste après cet enseignement sur qui est mon prochain, Jésus va enseigner ses disciples sur sa parole et sur le comportement qu'on doit avoir sur sa parole, par l'histoire entre Marthe et Marie. Quelle est la meilleure position à avoir, la meilleure part? S'asseoir au pied de Jésus et écouter sa parole. Et un petit peu plus loin, de quoi parle-t-il à ses disciples? Ses disciples l'interrogent. Apprends-nous à prier. Et Jésus leur apprend à prier. Il laisse donc à ses disciples la manière dont on doit se comporter face à son prochain, la manière dont on doit se comporter face et comment prendre sa parole et comment prier. Et puis il y a cette dette payée d'avance. Donc ces 2 deniers représentent aussi une certaine façon que Jésus va avoir de nous sauver. Ici, c'est une victime qui a été sauvée dans cette histoire, une victime de beaucoup de il est laissé pour mort. Et Jésus, ce Samaritain, ce personnage, mais on a bien compris que c'était Jésus, paye sa dette d'avance. Et en plus, il promet de revenir, de repasser. Ainsi, frères et sœurs, nous avons ici une manière dont nous comporter, une manière dont nous disciples, voir qui est mon prochain, voir les conséquences que Jésus a mis en œuvre pour nous sauver, voire le fait de nous confier aussi à nous qui sommes sauvés d'autres qu'il va sauver, c'est-à-dire le confier à son Église, c'est-à-dire bien prendre soin de ce que Jésus nous confie, de ce qu'il place sur notre route. Et également, leur apporter ce qu'il nous confie par ces deux pièces, représentées ici dans l'histoire par deux pièces, mais qui sont dans Luc 10, 38, 42, la parole de Jésus, sa parole, et sa parole faite chair en plus, puis la prière. Les personnes qui vont arriver dans notre Église, cassées par la vie, victimes, vont recevoir ici les soins tout particuliers que Jésus nous a confiés de donner. Nous avons reçu la parole, à nous de ne pas la garder, de la donner. Nous avons reçu la prière, prions les uns pour les autres. Victimes donc, blessés, nous l'avons été. Mais maintenant, aujourd'hui, nous sommes sauvés par Christ. Nous devenons donc le prochain dont parle Jésus. Il a bien retourné la question auprès de cet homme de loi, il a bien retourné la question en lui disant maintenant, à ton avis, lequel des trois s'est montré le prochain de l'homme qui avait été victime des brigands ? Je ne sais pas si vous avez constaté que toc, tout d'un coup, mais qui est mon prochain ? C'est bien celui qui tout d'un coup était victime, qui n'est plus prochain, mais celui qui vient le sauver, qui devient le prochain. Nous sommes bien le prochain de celui qui va venir ici, amené par Jésus-Christ ici dans l'Église. Alors quand je parle de l'Église, je parle de l'Église, de cette communauté de pierres vivantes, je ne parle pas de l'Église, le bâtiment. Et cet homme va être ici, pris par en tous les cas, par ceux qui ont déjà été sauvés. Ils vont maintenant prendre soin de lui. Jésus le leur confie. Et si quelqu'un ici n'est pas encore en Christ, si quelqu'un ici se sent victime justement en ce moment, victime de la confiance qu'il a donné aux hommes, victime de l'injustice de ce monde, victime du péché. Je voudrais dire à cette personne-là que Jésus est venu. Il est passé à côté de lui, il a pris soin de lui. Et maintenant, il l'a confié à l'Église. Je voudrais dire à cette personne que Jésus s'est arrêté pour toi sur le chemin. Pour te sauver de la mort. Parce que ce blessé-là, si personne ne s'en occupait, il allait mourir. Et nous, maintenant, qui sommes sauvés par grâce, dans l'imitation de notre Sauveur Jésus-Christ, mettons en œuvre l'amour, la compassion, comme Jésus l'a eu auprès de cette victime, comme Jésus l'a eu auprès de nous à un moment donné où nous étions victimes. La compassion que Jésus a eue pour nous, et accueillons-le en Église. Accueillons tous ceux qu'il nous confie, qu'il met sur mon chemin de vie. Dans notre accueil en Église, apportons maintenant à cette personne la parole de Dieu, la parole de vie. Et prions les uns pour les autres, par le Saint-Esprit aussi qu'il nous a laissé. Et tout ça, faisons-le le temps qu'il revienne. Il a promis de revenir. Dans cette tente que je vous avais présentée la semaine dernière, alors, on a peut-être du mal à le voir dans l'image, mais au centre, je vous avais parlé des cordages, des piquets, de la parole, d'être affermi dans la parole pour pouvoir accueillir convenablement, puisque c'est les piquets qui vont tenir la tente et faire qu'une toile soit suffisamment tendue pour en faire une tente, mais il y a un mât central. Ce mât central, j'aime à me dire que c'est Jésus-Christ. S'il n'y a pas ce mât central, dans cette multitude de toiles, hein, vous avez présenté une toile, le fameux carré suisse qui fait 1,67 m sur 1,67 m, qui représente, une toile représente un soldat. Mais j'aime à penser que nous sommes soldats aussi de Jésus-Christ, que nous sommes dans ce monde étranger et donc soldats pour la vie, soldats pour suivre Jésus-Christ. Nous sommes aussi accueillants sous cette toile de tous ceux que Jésus va nous confier. Et c'est Jésus qui tient cette tente, c'est Jésus qui tient son Église et qui sent Jésus-Christ au centre comme mât central. L'Église ne peut pas tenir. Prions les uns pour les autres, prions pour ceux que Jésus nous confie et apportons-leur la parole.